VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Monde aujourd'hui, édition du lundi 10 janvier 2022. Jean-Roger Pignon à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations, la junte malienne rejette les sanctions de la CEDEAO qu'elle juge illégales. Bamako rappelle ses ambassadeurs dans la sous-région. L'ONU lance des discussions indirectes pour résoudre la crise politique au Soudan. Début aujourd'hui des pourparlers Russie-États-Unis sur l'Ukraine et la sécurité de l'Europe. À New York, au moins 19 personnes, dont 9 enfants, sont mortes dimanche et une soixantaine ont été blessées dans l'incendie d'un immeuble du Bronx. Et c'est parti pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. La suite de la première journée, c'est vous aujourd'hui. Tout d'abord, notre journal de la CAN. Les matchs de la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations se poursuivent ce lundi, sont concernés par les rencontres du jour. Les équipes de la poule B, basées à Bafoussam, dans la région de l'Ouest, et celles de la poule C à Yaoundé. Emmanuel Jules Ntap nous attend à Yaoundé pour la page spéciale de la Coupe d'Afrique des Nations. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir à tous. Nous prenons tout de suite la direction de Bafoussam, où le Sénégal est venu à bout du Zimbabwe, 1-0. Et nous retrouvons à Medine Si.
L'équipe nationale du Sénégal s'est imposée dans la douleur face au Zimbabwe grâce à un but de Sadio Mané, un but inscrit dans les ultimes secondes sur penalty suite à une faute de main d'un défenseur zimbabwéen.
J'avais plus de recul, le mieux sauter, donc c'était le cas. Je vous avais dit que je vais laisser les penalties pour le bien de l'équipe et je pense que c'était normal. Et du coup, je suis retourné à un club et j'ai tellement bien travaillé. Et après, on ne sait jamais avec les penalties, mais en tout cas, ce qui est sûr, il faut faire l'effort pour récolter le fruit, donc ça a toujours été mon cas.
Si ce match, le Sénégal démarre cette CAN avec une victoire, ça a été difficile, surtout dans le contexte dans lequel vous avez dû démarrer ce tournoi-là avec plusieurs joueurs absents. Qu'est-ce qui va changer un peu dans la façon d'aborder la série ce tournoi?
Avant tout, d'abord, je pense qu'avant le match, il y a beaucoup de choses autour de l'équipe, mais vous savez, il faut avoir un mental de fer, c'est ce qui a été notre cas. Et après, pour le match, on savait que ça allait être un match disputé très difficile, et ça a été le cas, donc on n'a pas été surpris. Mais bon, en tout cas, je pense qu'en premier mi-temps, on a dominé le match, on s'est créé pas mal de chances. Et malheureusement, on ne les avait pas concrétisés, et du coup, ça nous a un peu compliqué la tâche. Mais on a été mentalement fort et on a poussé jusqu'au bout et on n'a rien lâché. Du coup, on s'est combattu, et au final, on a eu un penalty, on a marqué. Je pense que dans l'ensemble, on méritait de gagner ce match.
Les Warriors ont joué sans complexe face au Lion de la Teranga, mais il faut dire que Al-Zizé, qui a vu son équipe décimée par des cas de Covid, a fait confiance aux novices, car sur les 11 joueurs qui ont débuté la rencontre, 7 venaient de jouer leur première CAN. Seul Sadio Mané, Idriss Ganagay, Diaw Balde Keita et Cheikh Kiki avaient déjà joué une CAN, mais pour les Lions du Sénégal, l'essentiel est fait, car il fallait gagner pour bien démarrer cette compétition, et ils l'ont fait. Amédine Si, envoyé spécial de la VOA Afrique depuis Bafoussam.
Le Sili national et le Mali s'affrontent présentement dans le deuxième match de cette poule B, toujours à Bafoussam. En cours également, cette fois au stade omnisports de Yaoundé, où est logée la poule C, le match entre les îles Comores et le Gabon. Ce match sera suivi d'un choc entre le Ghana, l'une des équipes les plus titrées d'Afrique, et le Maroc. Hier, en conférence d'avant-match, le coach Vaïd des Lions de l'Atlas s'est dit confiant avant le coup d'envoi.
On a beaucoup travaillé, on s'est préparé beaucoup. Cette histoire qui n'est pas toujours glorifiant, je pense que cette génération, il va obtenir quelque chose. Je suis très confiant pour ça. Ce premier match pour moi, c'est très important et très déterminant pour la suite de compétition.
Pour le capitaine des Black Stars, André Ayou, il ne faudrait surtout pas se focaliser sur certaines rencontres, même si le match de ce soir est très déterminant pour la suite de la compétition.
On va prendre le temps, faire match par match, et on va voir où ça va nous mener. Mais je suis très confiant avec le groupe que je vois et j'espère qu'on va aller très loin. Au fil du temps, on pourra accentuer les objectifs de plus en plus. mais le plus important c'est le prochain match, de gagner et continuer à avancer.
C'est la fin de ce journal de la CAN. Amédine Si, Emmanuel Juntap, Yaoundé, VOA Afrique.
Réaction ferme de Bamako à l'embargo imposé par la CEDEAO. Le Mali annonce le rappel de ses ambassadeurs en Afrique de l'Ouest et la fermeture de ses frontières avec ses voisins de la CEDEAO. Le point avec Abdou Rahman Dia.
Dans une déclaration lue à la télévision, le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, qualifie ces sanctions prises à l'issue du sommet d'Accra d'illégales et d'illégitimes. Il annonce du coup le rappel des ambassadeurs du Mali dans les pays de la CEDEAO. Le gouvernement du Mali regrette que des organisations sous-régionales ouest-africaines se fassent instrumentaliser par des puissances extra-régionales au dessein inavoué, a-t-il ajouté, sans les nommer. La junte annonce aussi la fermeture de ses frontières terrestres et aériennes avec les pays de la CEDEAO. Les dirigeants de la CEDEAO et de l'UMOA ont pris dimanche une série de mesures économiques et diplomatiques très sévères à l'encontre du Mali après la publication d'un chronogramme qui pourrait maintenir la junte au pouvoir jusqu'en 2026. La CEDEAO, qui maintient les échanges commerciaux des produits de première nécessité, a aussi décidé de couper ses aides financières et de geler les avoirs du Mali à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO.
Conséquence des sanctions, Air France a suspendu aujourd'hui l'ensemble de ses vols vers Bamako, en application de l'embargo décrété dimanche par les leaders de la CEDEAO. Nous reviendrons sur les réactions de la junte malienne et des populations dans la partie magazine de cette édition. L'émissaire de l'ONU au Soudan, Volker Perthes, a annoncé le lancement de discussions indirectes avec les parties civiles et militaires pour tenter de résoudre la crise. Il s'agira d'abord d'entretiens individuels entre l'ONU et des acteurs soudanais, a déclaré l'émissaire onusien lors d'une conférence de presse à Khartoum. Nathalie Barge.
Les pourparlers visent à aider les Soudanais à parvenir à un accord sur une sortie de crise, a déclaré Volker Perthes, estimant qu'il est temps de mettre fin à la violence et d'entrer dans un processus consultatif global. L'envoyé de l'ONU a noté qu'il n'y avait eu aucune objection de la part de l'institution militaire. L'initiative a toutefois été accueillie avec peu d'enthousiasme par certains acteurs civils. Hier, l'association des professionnels soudanais a rejeté ces pourparlers et les forces de la liberté et du changement en fer de lance de la révolte en 2019 ont indiqué n'avoir reçu aucun détail de la part de l'ONU et être contre les pourparlers s'ils cherchent à légitimer le régime militaire. Les manifestations sont l'objet d'une répression qui a fait au moins 63 morts depuis le 25 octobre. Selon le comité des médecins soudanais, les autorités contestent avoir recours à des balles réelles et disent que de nombreux membres des forces de sécurité ont été blessés. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir mercredi pour discuter des développements au Soudan.
L'ONU a appelé lundi les dirigeants de la Somalie à tenir leurs promesses après la conclusion d'un accord pour achever en février les élections dont les retards répétés ont généré une profonde crise. Dimanche soir, le Premier ministre Mohamed Hussein Roblé et les chefs des différents États somaliens ont promis d'achever d'ici au 25 février les élections parlementaires. Sur Twitter, la mission de l'ONU en Somalie s'est dite aujourd'hui satisfaite du consensus, mais a ajouté « la priorité désormais est de mettre en application crédible afin d'obtenir un résultat crédible et largement accepté ». Quelques 15 millions de jeunes Ougandais ont repris aujourd'hui le chemin des établissements scolaires qui étaient fermés depuis presque 2 ans en raison de l'épidémie de coronavirus. Le ministre ougandais de l'Éducation, John Muyingo, a indiqué que tous les élèves reprendront les cours une classe au-dessus du niveau où ils avaient arrêté. De nombreuses organisations de défense des droits des enfants ont dénoncé cette fermeture de 83 semaines, la plus longue jamais observée dans le monde. Les autorités libyennes ont arrêté aujourd'hui plus de 600 migrants et réfugiés qui campaient depuis plusieurs mois devant un ancien bureau du HCR à Tripoli. L'organisation humanitaire a affirmé que l'opération d'évacuation menée tôt lundi était musclée et que les tentes et abris de fortune des migrants ont été incendiés devant ce centre que le HCR a fermé en décembre.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À New York, au moins 19 personnes, dont 9 enfants, ont été tuées et des dizaines blessées dans l'incendie d'un grand immeuble de 19 étages hier dans le Bronx, qui abrite une importante population d'immigrés, dont ceux originaires de la Gambie en Afrique de l'Ouest. C'est l'incendie le plus meurtrier de la ville depuis des décennies. Nani Talani.
L'incendie a été déclenché par un radiateur électrique défectueux dans un appartement en duplex d'un immeuble du Bronx. Puis le feu s'est propagé. Le manque d'escaliers de secours a rendu difficiles les opérations. Quelques 200 pompiers ont été envoyés pour maîtriser l'incendie. Une enquête a été ouverte. La gouverneure de New York, Kathy Hochul, qui a qualifié les événements de nuit de tragédie, s'est engagée à créer un fonds d'indemnisation pour venir en aide aux survivants. Ceux-ci sont logés dans des hôtels. Le maire de New York, Eric Adams, exhorte toute personne touchée à demander l'aide des autorités, quel que soit son statut d'immigration. Le sénateur de New York, Chuck Schumer, s'est engagé à fournir un soutien pour permettre aux familles de se réunir pour faire leur deuil.
Des pourparlers sous haute tension entre Russes et Américains ont commencé ce lundi à Genève, sur fond de crainte d'une invasion de l'Ukraine par Moscou, qui réclame une limitation de l'influence occidentale à ses frontières. Le point avec Rosine Monezero.
Cette réunion, qui a débuté à la représentation américaine à Genève, se tient entre les vice-ministres des Affaires étrangères des deux pays, la secrétaire d'État adjointe Wendy Sherman et le vice-ministre russe Sergei Ryabkov. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a pressé la Russie d'éviter une nouvelle agression de l'Ukraine et de choisir la voie diplomatique. Le Kremlin, sous pression pour retirer ses troupes de la frontière ukrainienne, demande aux Occidentaux des garanties sur la sécurité, dont celle que l'OTAN ne s'étend pas plus à l'Est. Cette rencontre, la troisième depuis celle entre le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine en juin dernier, marque le début d'une semaine diplomatique intense pour notamment tenter de désamorcer la crise autour de l'Ukraine. Outre les discussions en Suisse lundi, une réunion OTAN russe est prévue mercredi à Bruxelles, puis une rencontre jeudi à Vienne de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.
Notons que la vice-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman a dit avoir évoqué avec son homologue russe à Genève d'éventuelles limites réciproques aux missiles et aux manœuvres militaires en Europe, mais a réitéré les avertissements occidentaux en cas d'invasion de l'Ukraine. Washington a prévenu Moscou que la politique portes ouvertes de l'OTAN se poursuivrait en dépit des demandes russes, a-t-elle aussi dit dans un échange téléphonique avec la presse. Elle a ajouté avoir dit à Sergei Ryabkov que les États-Unis étaient prêts à continuer ces pourparlers prochainement. Le président du Kazakhstan a assuré ce lundi que son pays avait vaincu une tentative de coup d'État en référence aux émeutes de la semaine passée, promettant le départ sous peu des troupes russes appelées à la rescousse. Le président kazakh Kassym Jomart Tokayev doit présenter demain mardi devant le Parlement la composition du nouveau gouvernement, le précédent ayant été limogé la semaine dernière pour calmer les protestations. En Birmanie, l'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi a été condamnée aujourd'hui à 4 ans de prison dans l'un des volets de son procès, au terme duquel elle risque des décennies de détention. Aung San Suu Kyi, 76 ans, avait déjà été condamnée en décembre à 4 ans de détention pour avoir enfreint les restrictions sur le coronavirus, une sentence ramenée à 2 ans par les généraux au pouvoir. Elle purge cette première peine dans le lieu où elle est tenue au secret depuis son arrestation il y a près d'un an. Le ministre taliban des Affaires étrangères a annoncé aujourd'hui avoir rencontré à Téhéran le fils du commandant Massoud Ahmad, un farouche adversaire de son régime, auquel il a assuré qu'il pouvait retourner sans crainte en Afghanistan. Le fils du légendaire commandant Massoud, assassiné en 2001, a promis de continuer la lutte après l'arrivée au pouvoir des talibans à la mi-août. Le Trésor américain a annoncé lundi des sanctions à l'égard de 6 hauts responsables du Nicaragua, dont la ministre de la Défense, dénonçant le simulacre d'élection qui avait en novembre reconduit le président Daniel Ortega au pouvoir. Daniel Ortega, 76 ans, doit prêter serment aujourd'hui à Managua pour un 4e mandat consécutif aux côtés de son épouse et vice-présidente Rosario Murillo. Privé d'opposition à la suite de l'emprisonnement des principaux rivaux du président, le scrutin du 7 novembre avait permis sans surprise la réélection de Daniel Ortega. Le président américain Joe Biden avait immédiatement qualifié l'élection de comédie. Voilà pour le journal, vous écoutez VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour les dossiers du jour. Suite aux sanctions prises par la CEDEAO contre le Mali, les autorités maliennes n'ont pas tardé à riposter. Dans la soirée d'hier, le ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement, Abdoulaye Maïga, est monté au créneau pour regretter et rejeter ces sanctions et annoncer le rappel de ses ambassadeurs dans les pays de la CEDEAO. Les Maliens ont aussi réagi aux décisions du bloc communautaire ouest-africain. Le reportage de notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, ont pris de lourdes sanctions contre le Mali, allant de la fermeture des frontières aériennes et terrestres au gel des avoirs. Des sanctions jugées disproportionnées par nombre de citoyens.
Bon, moi, je pense que la CEDEAO est allée très très loin pour ces sanctions. Vous savez, tout le monde connaît la situation du Mali aujourd'hui. L'insécurité règne partout. Donc moi je pense qu'au lieu que la CEDEAO aide le Mali vraiment pour recouvrir toute son insécurité ce soir, la CEDEAO prend des sanctions vraiment pour renforcer le Mali. Donc je pense que cette sanction-là, ça va renforcer l'union des Maliens.
La main lourde de la CEDEAO, titre le quotidien Info Matin. Monsieur le colonel, le pays est en feu, renchérit le quotidien Le Combat, place aux sanctions financières et économiques, boucle le biais hebdomadaire 22 septembre. Pour Omar Konaté, directeur de publication du journal La Preuve, ces sanctions de la CEDEAO étaient prévisibles.
Les sanctions de la CEDEAO contre le Mali étaient prévisibles. Je pense même que l'organisation sous-régionale a été beaucoup clémente envers le Mali parce que on sent qu'elle n'a pas voulu prendre des sanctions contre nous, mais face à l'attitude de nos autorités de transition, elle était contrainte d'aller jusqu'à ce niveau.
Selon Ali Sako, opérateur économique, dont les opérations sont orientées vers le Sénégal, le Mali et la CEDEAO doivent faire des efforts pour trouver un terrain d'entente.
Les sanctions de la CEDEAO contre le Mali ont bien dirigé cette sanction sévère contre le peuple du Mali. Mais bon, c'est Dieu seul qui sait comment cette sanction-là peut finir. Mais ce que nous demandons vraiment aux deux côtés de voir les choses vraiment pour que les Maliens puissent avoir la paix.
A noter que les autorités de la transition, par la voix du porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, a fait une sortie télévisée quelques heures après la publication des sanctions pour condamner et rejeter ces mêmes sanctions. A son tour, les autorités ont décidé de fermer les frontières et de rappeler les ambassadeurs du Mali établis dans les pays de la CEDEAO. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique.
Des informations pertinentes et fiables. C'est VOA Afrique au Mali. Musique et actualité pour tous. Sur 102 FM Bamako, 106.1 Gao et 90.3 Tombouctou.
Au Tchad, les autorités sanitaires vont en guerre contre les vendeurs de médicaments de la rue et les officines de pharmacie qui ne respectent pas les normes. Une opération de dégrappissement des points de vente de ces produits pharmaceutiques d'origine douteuse et des salles illégales de soins a démarré. Les détails avec André Kodmajinga, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena.
L'opération a commencé deux jours après la mise en garde du ministre de la Santé publique exigeant aux vendeurs illégaux de ces produits pharmaceutiques qui sont installés devant les hôpitaux et autres structures de santé de fermer boutique.
La vente illicite de produits pharmaceutiques n'est pas une bonne chose. Il va falloir qu'on réglemente ça.
Hissen Pali Paimakriou est le coordonnateur de la police sanitaire.
On ne peut pas admettre que quelqu'un vienne à l'hôpital alors que les produits sont là à l'hôpital et les ordonnances sont envoyées dehors. On prend le produit de la rue qui est déjà frappé par la chaleur et on renvoie ça à l'intérieur pour encore donner autre maladie à nos concitoyens.
Les professionnels en la matière soutiennent cette opération qui, selon eux, permettra enfin de les rétablir dans leurs droits. Docteur Masna Raksala est le président de l'Ordre national des pharmaciens.
Nous, les pharmaciens, on ne se reconnaît plus dans la pharmacie. Vraiment, c'est un désordre total. Les pharmaciens font partie du personnel de la santé. Ils sont là pour garantir la sécurité des médicaments qui sont délivrés à la population. Donc, ces pharmaciens sont dans cette opération rien que pour la santé. clientèle de la population et non autre chose.
Les auteurs de la vente de médicaments de la rue, dont la plupart sont des diplômés sans emploi, plaident leur sort.
On a des diplômes, mais par manque d'emploi, c'est pourquoi on s'est référé dans ces sens pour quand même ne serait-ce que survivre. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir 1000 francs, mais au vu de cela, on les sauve.
L'État cherche à nous enterrer vivants, puisque moi, j'ai fini depuis 2014, infirmier diplômé d'État. Et voilà, je suis là comme ça. J'ai déposé partout, rien. C'est pourquoi j'ai entrepris cette activité, me prendre en charge et aussi ma famille.
Une veuve rencontrée dans le couloir d'un marché de la place avec un enfant sous les bras venait solliciter le service de ses praticiens surnommés Dr Tchoukou, s'exprime au micro de VOA Afrique.
Si le gouvernement ferme toutes les pharmacies par terre, nous allons tous mourir. Moi, je suis veuve et mon enfant que vous voyez est malade. Et c'est le docteur Tchoukou qui l'a sauvé. Mais ils vont fermer son coin. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas de moyens pour amener mes enfants à l'hôpital. Que le gouvernement ait pitié de nous, le pauvre. On n'a pas droit à vivre dans ces pays.
Pour le président de l'Ordre national des pharmaciens, docteur Masna Araxala, ces jeunes ne peuvent pas prétendre gagner leur vie par une activité qui met en péril la santé de la population.
S'ils veulent le faire, il faut qu'ils respectent les textes de la République. Les textes disent clairement qu'il faut avoir une formation dans ce sens et détenir une autorisation délivrée par le ministère de la Santé s'ils veulent. Et ces populations qui se soignent auprès d'eux, ils ne le savent pas qu'ils sont en train de s'intoxiquer avec ces médicaments. On ne se rend pas compte, l'intoxication peut être aussi à long terme. Donc ces gens-là sont en train de faire plus du mal que du bien à la population.
Les autorités en charge de la santé publique rappellent que désormais la vente des produits et l'exercice de la profession pharmaceutique sans autorisation préalable sont répréhensibles par les textes relatifs à la pharmacie. André Kordouma Dingar Njamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, Anjamina au Tchad sur 93.1 FM.
Des responsables américains et russes se réunissent cette semaine en Europe pour aborder les tensions le long de la frontière russo-ukrainienne. Un reportage de Michel Quinn, relaté par Nathalie Barge.
La situation tendue en Ukraine avec 100 000 soldats russes près de la frontière est le sujet des discussions qui commencent ce lundi à Genève. La Russie a démenti avoir l'intention d'envahir son voisin et a exigé que les forces de l'OTAN se retirent d'Europe de l'Est dans le cadre des garanties de sécurité. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré que la réduction des troupes américaines dans la région n'est pas à l'ordre du jour, contrairement à d'autres questions telles que la relance d'un traité qui impose des limites mutuelles où les troupes peuvent être déployées et mener des exercices. M. Blinken s'est exprimé dans l'émission This Week d'ABC.
Il est très difficile de voir des progrès réels se produire alors qu'il y a une escalade en cours. Lorsque la Russie a un pistolet sur la tête de l'Ukraine, avec 100 000 soldats près de ses frontières, et la possibilité de doubler cela à très court terme.
Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a déclaré dimanche que les États-Unis ne comprennent pas les problèmes de sécurité de la Russie, alors que l'ancien ambassadeur américain en Ukraine, Michael McFaul, a appelé les États-Unis à envoyer plus de troupes dans le pays. Le sénateur républicain Mike Rounds a déclaré sur la chaîne ABC qu'il soutenait les efforts de l'administration Biden pour trouver une solution diplomatique avec le président russe Vladimir Poutine.
Je pense qu'envoyer un message à M. Poutine qu'il va accomplir beaucoup plus en utilisant des moyens diplomatiques plutôt que de menacer d'envahir est quelque chose sur lequel nous devrions être très fermes.
Anthony Blinken a déclaré qu'il y avait des principes en jeu au-delà de la crise ukrainienne, comme ne pas permettre à un pays de modifier des frontières par la force ou de soumettre ses voisins.
C'est pourquoi il est si important que nous défendions non seulement l'intégrité territoriale de l'Ukraine, sa souveraineté, son indépendance, mais aussi ses principes de base.
Après leur rencontre à Genève, les responsables américains et russes devraient poursuivre les discussions cette semaine à Bruxelles et à Vienne.
Le Les hôpitaux new-yorkais travaillent désespérément pour sauver la vie de plusieurs dizaines de personnes grièvement blessées par la fumée dans un incendie qui a tué 19 personnes, dont 9 enfants, dans un immeuble du Bronx. Jenny Kapumbu-Villa s'est entretenue avec Abou Traoré, un résident du Bronx.
L'incendie s'est déclenché à partir du chauffage tempérant dans une maison. Parce qu'à New York, ici, la plupart des familles achètent des chauffages comme secours quand le chauffage principal ne marche pas dans l'immeuble proprement. Donc, nous utilisons tous des chauffages d'appoint. C'est ce qui a été à l'origine de l'incendie. Comme en 2003, il y a eu un grand incendie comme ça. Il y a eu à peu près combien de morts aussi. Effectivement, c'est la même chose qui s'est passée.
Tout à fait. Même vous-même, vous utilisez un chauffage électrique chez vous?
Oui, moi-même, hier soir, quand j'ai commencé à mettre, je pensais à l'incendie, mais on n'a pas le choix parce que souvent, le chauffage central ou bien quoi, de l'immeuble ne donne pas à fond, ou bien ça vient à intermittence. Vraiment, les gens sont obligés d'utiliser le chauffage pour eux-mêmes.
D'accord. Et jusque-là, on a parlé de familles d'origine d'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous avez des précisions?
Oui, il y a des familles, il y a une famille gambienne, il y a une famille guinéenne. Il y a même une famille malienne dont il y a une petite fille, une fillette quoi, malienne, et puis un garçon, donc dont on va faire la levée du corps, la prière à la mosquée de Tombouctou, Sénénox, à Manhattan, le mardi demain.
Et est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qu'on puisse faire pour prévenir tout ça?
On donne des conseils aux gens, parce que quand ils mettent ces chauffages, souvent, ça dépend. Il y a des chauffages d'appoint qui sont très, très bien sophistiqués. Même si ça tombe, de lui-même, ça ne déclenche pas un incendie. Mais certains vont payer des choses qui sont moins chères. À la moindre chose, même une couverture ou bien un drap à proximité du chauffage, ça ne déclenche pas facilement l'incendie.
D'accord.
C'est ce qui est le problème. Bon, on leur donne des conseils de payer des choses vraiment appropriées, même si c'est cher, pour préserver leur vie.
D'accord. Donc des chauffages de meilleure qualité, en fait. D'accord.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.